Amen. Oui, Dieu veut bénir ces moments. Nous allons repartir de la conclusion de dimanche matin, dans Luc 21. Nous avons lu un texte qui est une exhortation, qui est un commandement, un conseil, pour que nous soyons debout quand Jésus va revenir. Ça vous intéresse ? Luc 21, nous allons lire à partir du verset 31. On va lire le verset 29, puisqu'il rappelle la restructuration du 10 pays d'Israël. Luc, chapitre 21, verset 29. Jésus leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de peur, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Voilà une instruction. Voilà de ne pas être troublé. Nous avons chanté tout à l'heure, « Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur ». Vous avez pu le chanter, ce verset, cette parole ? Vous vous rendez compte ce que nous avons chanté ?« Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur ». C'est beau, hein? Et toute la parole de Dieu a ce but de nous amener à vivre cette parole « Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur ». C'est une exhortation. À deux ou trois reprises, dans les chants que nous avons pris, nous avons chanté Matthieu chapitre 11, versets 28, 29 et 30. Nous l'avons chanté. Je ne sais pas si vous faites attention. Quand vous chantez un cantique, vous regardez de quel texte biblique il vient ? Est-ce que vous arrivez à le faire ? Vous n'arrivez pas à le faire ? Tous les cantiques que l'on a sont tirés de versets bibliques, tous. Ça fait que moi, quand je chante, je cherche le verset où c'est. Je sais quel verset c'est. Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui parle. Il parle pour que nous puissions vivre ce que nous venons de chanter. Nous avons chanté, venez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous l'avez chanté, vous rappelez. Bon. Donc c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans les cantiques que nous avons chantés, tous ces versets ont été rappelés. À savoir qu'il y a un joug qui est doux et un fardeau léger. Et Dieu sait quand on est fatigué, physiquement, pas à cause de la fatigue du jour. Dieu sait quand on est chargé psychiquement, quand la fatigue elle est spirituelle. Il le sait, le Seigneur. Et il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On le relit. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Donc, est-ce que nous vivons ces choses ? Jésus a dit, avant de remonter au ciel, aux douze, qui étaient rampés, il ne restait plus que onze, il leur a dit « Faites des disciples. » Faites des disciples et, après, qu'est-ce qu'il a ajouté ? Et baptisez-les. Nous, aujourd'hui, on baptise les gens, en espérant qu'ils deviendront des disciples. Mais quand on regarde, d'ailleurs c'est dans Matthieu, on peut le lire à la fin, parce que je ne sais pas si les gens, quand ils prennent le baptême, ou quand ils décident de s'engager, ont compris l'ordre. Matthieu 28, c'est les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, donc c'est des choses importantes. Vous voyez, Matthieu 28, verset 19. Il donne un commandement d'aller sur la terre entière. Mais c'est quand même important, ces choses. Vous voyez ? Allez, verset 19. faites de toutes les nations des disciples. Il n'est pas dit faites des protestants, des catholiques, des pentecôtistes, des chrétiens de telle ou telle dénomination. Donc, faites des disciples. Et enseignez-leur à observer, verset 20, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné et qui en arrive à observer ce qui lui a été prescrit. Et il peut chanter de tout son cœur, rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Un homme qui n'est pas devenu un disciple va être troublé. Alors ça peut arriver des fois qu'il y a un moment de trouble, d'inquiétude, mais je ne parle pas d'une petite épreuve, d'une petite tentation. Je parle des gens qui vivent continuellement dans la crainte parce qu'ils ne sont pas devenus des disciples. Un disciple, regardez un peu plus loin dans Jean. Ce sont des, vous savez, rien que les évangiles peuvent suffisent. Quelqu'un qui ne lirait que les évangiles pourrait devenir un véritable disciple, croyez-moi. Mais on a plus que ça, bien entendu. Dans Jean, au chapitre 8, Jésus le dit bien. Et il le dit à des gens qui se croyaient des disciples. D'ailleurs, ça, c'est un chapitre où ça va vraiment chauffer, croyez-moi, avec les pharisiens, qui au début sont contents. Au début, ils sont contents. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, Jean, quand vous lisez le chapitre 8, c'est impressionnant comment ça peut vite dégénérer quand on écoute la parole. Regardez Jean chapitre 8, c'était pas le but de la soirée, mais quand même regardez. Jean chapitre 8, verset 30. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Allez, Jésus parle, il explique des choses extraordinaires, et plusieurs crurent en lui. Et il commence à dire, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, c'était à des chrétiens, à des croyants. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et à partir de là, Jésus leur enseigne qu'il faut vivre dans la vérité, et ils ne le font pas. D'ailleurs, regardez au verset 42, ça dégénère vite. Hein. Jésus leur dit, mais si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et il est le père du mensonge. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, on voit un disciple. C'est quoi un disciple? Un disciple, quand il écoute Dieu, il dit, Dieu l'a dit, je le fais. Et avec joie. Regardez la fin quand même. Quand vous regardez, il faut le lire en entier ce chapitre. Regardez la fin, comment ça finit bien. Jean chapitre 8, verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Vous avez vu? Vous avez vu comment ça peut vite dégénérer? Quand on entend la vérité, et Jésus dit, voilà, si vous recevez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc le but de Dieu, le but du Seigneur, on le voit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un vient, il doit venir et il est touché par la parole de Dieu. Il doit être touché, ça doit toucher son cœur, ça doit toucher son âme. Dans le livre des Actes, c'était tous des croyants. Mais quand ils ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre, il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit aux apôtres, que ferons-nous? Et Pierre n'a pas dit, mais vous avez votre religion. Est-ce qu'ils avaient une religion? Mais tous ils étaient religieux. Tous. Jésus a dit, mais écoutez, vous avez une religion, c'est bon. Non. Repentez-vous et convertissez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Et l'ont fait. Ils se sont repentis. Ils sont devenus des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose. Je vous donnerai du repos. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas de venir dans une église et juste recevoir certaines bénédictions au niveau de la communion fraternelle. C'est vraiment recevoir le repos. Parce que quand même, je ne sais pas comment vous avez chanté, mais moi j'étais heureux de chanter. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur, dans ce monde où tout le monde est troublé, épuisé, découragé, enténébré. Vous avez vu le monde à quelle vitesse ça... Moi ça ne m'intéresse pas de revenir dans le monde. Hein. Ça ne m'a jamais intéressé d'ailleurs, mais je veux dire, ça ne m'intéresserait pas même si ça améliorait. Mais vous savez où le monde s'en va. Et Jésus dit, venez à moi. Vous avez vu, on l'a lu dans Jean 8, les gens s'approchent de Jésus, Jésus dit des choses intéressantes, alors ça commence à les intéresser, mais quand il commence à leur dire, mais vous mentez, et le père du mensonge, c'est le diable. Vous avez vu comment ça se termine? Un chrétien, il aime la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu donne du repos. Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que Dieu peut donner du repos ce soir? Mais Dieu veut, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il veut donner du repos. Il y a quelque chose que Dieu donne. Il le donne à condition que nous écoutions et que nous mettions en pratique. Faites des disciples. Donc il y a le repos que Dieu donne, ça se passe à la conversion, je me repens vraiment. Parce que des fois, on me pose souvent la question. Est-ce que les gens qui abandonnent Dieu étaient vraiment convertis? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors tout à l'heure, on m'a posé la question. Tout à l'heure, oui. Et quand Paul parle de Démas, à plusieurs reprises, il parle de Démas. C'était un compagnon d'œuvre, par exemple. Ça m'est venu à l'esprit. Démas était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. C'était un pasteur adjoint avec Paul. Et à un moment donné, il dit, mais Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. C'était un pasteur, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il était, croyez-moi, converti. Ça m'étonnerait que Paul se soit entouré d'un gars qui n'était pas converti. Mais il a choisi parce qu'on est libre. Je ne sais pas comment il a terminé, la Bible ne le dit pas. En tous les cas, la dernière fois où il nous est parlé de Démas, c'est un homme qui a abandonné Dieu par amour pour le siècle présent. Il y a des gens qui aiment le monde. Et le monde, bien sûr, finit par les attirer. Jésus, lui, dit à tout le monde, « Je vous donnerai du repos. » Mais après, il y a quand même ce souci au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez le repos. » On ne l'a pas chanté deux fois dans deux cantiques que le joug du Seigneur était doux et léger, Lucas. On l'a chanté dans deux cantiques que le joug du Seigneur, il était doux et que son fardeau, il était léger. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons des instructions du Seigneur? On en a lu une tout à l'heure qui concluait les deux prédications sur l'apostasie. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Alors qu'est-ce que ça veut dire veiller? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Est-ce que ça veut dire réciter des prières? Parce qu'il y a plein de gens qui prient. Moi, je connais plein de gens qui prient, ils sont toujours en vrac. Ils prient, mais ils sont toujours découragés. Ils prient comme les païens, ou ils prient comme les hypocrites. Et Jésus le dit dans Matthieu 6, ne priez pas comme les païens, ne priez pas comme les hypocrites, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des gens, ils prient pour rien. Et en plus, ils fatiguent les autres en leur demandant de prier, alors qu'en fin de compte, c'est pénible, parce qu'ils ne vivent pas cette grâce de s'approcher de Dieu pour recevoir. Veillez et priez. Alors quand on prie, il faut prier. Il y a des choses qu'on ne peut pas apporter. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? Non. Donc, est-ce qu'on peut amener quelqu'un à Dieu? Est-ce qu'on peut le ramener à Dieu? Non. Mais Dieu peut le faire. Et quand Dieu demande quelque chose, recevez mes instructions. Peut-être que dans votre Bible, vous avez « Apprenez de moi ». Qui c'est qui a « Apprenez de moi » Personne, hein? Matthieu 11, 29. « Apprenez de moi ». Je crois que c'est dans la version d'Arabie, j'en sais rien. En fait, c'est pas grave. « Venez, prenez et recevez ». Alors, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas porter. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il faut faire des choses qu'on ne peut pas porter? Comment? Voilà, il faut les déposer. Alors, est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui l'indiquent, ça? Alors, citez-moi un. Alors, c'est où, ça? 1 Pierre. 1 Pierre 4 ou 5 ? 5. 1 Pierre, non 4. 1 Pierre 4. Non, 5. 1 Pierre 5, verset 7. Recevez les instructions, c'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est là qu'on reconnaît un vrai disciple. Parce que croyez-moi, des choses difficiles à porter, il y en a. Il y en a des choses difficiles. Et Dieu le sait. Et quand il dit « Recevez mes instructions », qu'est-ce que je fais de ce verset 7 de 1 Pierre 5? 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous avez vu dans le texte qu'on a lu en premier, que quand il est dit « Prenez garde que vos cœurs ne se laissent appesantir par les excès du manger et du boire » et par les soucis. Il n'y a pas que les pièges du manger et du boire qui sont une bénédiction. Est-ce que c'est bien d'avoir bien à manger, à boire, tout ça? Eh bien oui. Mais ça peut devenir, bien sûr, comme tout, tout peut devenir un piège. À partir du moment où ça prend la place de Dieu, où ça passe avant Dieu, tout peut devenir un piège, n'importe quoi. Mais il dit bien, par les soucis de la vie. Parce que des soucis, on en a tous. Tous. Et le Seigneur est catégorique. Si nous voulons chanter, ou alors il ne faut plus le chanter, rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Vous le remettez, s'il vous plaît? C'est beau de chanter des cantiques comme ça. Le dernier cantique, c'est le dernier. Hein, quand même, moi je ne sais pas si on réalise, parce que quand même, une fois quelqu'un m'a dit, est-ce que vous vivez ce que vous chantez? J'ai dit, écoutez, peut-être pas toujours, mais en tous les cas, quand je chante, je m'applique à réfléchir à ce que je chante, et je cherche à le vivre. Parce que des fois, c'est vrai que c'est... Mais quand même, voyez, rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. C'est quand même merveilleux de chanter ça. Vous ne croyez pas? Et c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, que votre cœur ne se trouble point. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ça l'obéissance. Et je le fais. Alors, un souci. Alors, parlons d'un souci. J'ai un fardeau par rapport à un de mes enfants. Par exemple, j'ai un enfant qui n'est pas converti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier pour lui. Seigneur, je te prie pour Lucas. Tu vois? Par exemple, tu es converti, ouais. Je te prie pour... Bon, ils sont tous convertis, mais enfin, bon, merci Seigneur. Mais quand même, c'est sérieux cette affaire. Ça. Alors le fardeau, je vais me décharger Seigneur, voilà. Je te prie pour mon fils. Bon, est-ce que le fardeau peut revenir? Alors il peut revenir combien de fois dans la journée, tiens, en fait? Parce qu'il faut qu'on soit super pratique. Combien de fois ça peut revenir dans la journée, un fardeau? Est-ce que ça peut venir 10 fois, 30 fois, 100 fois? Ouais. Mais c'est vrai que c'est un fardeau pour revenir 52 fois, soyons honnêtes. Et bien pour ta, 50 fois, 51, je dois dire, Seigneur, je te remets mon fils. Et je te fais confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il ne faut pas se décourager. La Bible le dit, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin d'assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Mes frères et sœurs, il faut l'accepter parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, c'est pas normal, le fardeau il revient, c'est que je ne sais pas prier. » Si, c'est normal. Ne soyons pas hypocrites. Un fardeau, il peut revenir plusieurs fois. Eh bien, plusieurs fois. Autant de fois qu'il revient, je me décharge. Et j'apprends à combattre ce bon combat. Tu veux me conduire, tu me rendras vainqueur. Seigneur, je le ferai. Recevez mes instructions. Moi, j'ai lu un bouquin qu'on avait dans nos églises, il y a 20 ans de ça. C'était un pasteur, je ne sais pas ce qu'il lui avait pris. Il avait dit qu'un fardeau, il fallait l'apporter au Seigneur une fois. Et que si ça revenait, c'est qu'on n'avait pas bien prié, qu'on ne savait pas prier. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la Bible nous dit de persévérer dans la prière. Même Jésus a prié plusieurs fois, Gethsémané. Oui ou non? Alors non, mais ça prouve bien qu'il faut persévérer et qu'un fardeau, il peut revenir. Quand c'est pas, c'est pour ça, n'écoutez pas ces gens. Ce n'est pas biblique. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Ne vous inquiétez de rien. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et moi, je trouve que les gens ne sont pas assez simples. Vous voyez, ce soir, c'est le béaba, mais je suis persuadé que beaucoup parmi nous ont besoin de comprendre mais qu'est-ce que ça veut dire venir à Jésus. Je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Nos âmes ont besoin de repos. Et dans ce monde super difficile, puisque la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles, eh bien on peut vivre dans le repos et on peut chanter sans être hypocrite. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Ne vous inquiétez de rien. Alors là aussi, est-ce que vous vous êtes inquiété aujourd'hui? Vous êtes inquiété, pourquoi? Ah, mais c'est sûr en plus. Parce qu'en plus, on le voit bien. Quand on se retourne avec le temps, on dit, mais Seigneur, tu as pourvu. Tu as agi. Et quand Dieu demande quelque chose, il faut qu'on soit sérieux, mes frères et sœurs. L'autre jour, il y a une chrétienne qui me dit, j'arrive à l'église, et elle me dit, voilà, il faut bien essayer la prière. Il faut bien essayer la prière, puis je me dis, il n'y a que ça à faire. Et pardon? Alors elle a compris de suite. Il faut essayer la prière. J'ai dit, mais vous plaisantez ? J'ai dit, mais c'est la chose la plus merveilleuse. Vous rendez compte, n'importe où, n'importe quand, depuis que Jésus est mort sur le bois de la croix, le voile du temple s'est déchiré, ça veut dire que n'importe où, n'importe quand, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, par la foi. Vous vous rendez compte? Quelle grâce le Seigneur nous a accordée, grâce qui était réservée au souverain sacrificateur une fois par an. Et là, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut dire, Seigneur, fais-moi grâce, agis dans ma vie. Déchargez-vous sur lui de tout. Mais si on ne le vit pas, eh bien, la Bible dit, mais c'est Paul qui dit, mais ne marchez pas comme les païens. C'est écrit ça dans la Bible, ne marchez pas comme les païens. Oui. Les païens, ils s'inquiètent tout le temps, ils sont tout le temps dans le souci. Ils n'arrivent pas à obéir simplement parce qu'ils ne vivent pas par la foi. Regardez dans le psaume 37. Il y a des choses qu'on ne peut pas les faire. Ça ne sert à rien de les porter. Ça ne sert même à rien presque d'en parler. Vous connaissez le psaume 37 ? C'est un psaume que presque tous les chrétiens connaissent. Pourquoi ? Parce que je pense, je vais vous dire pourquoi les gens ils connaissent ce psaume. Psaume 37. Vous êtes d'accord avec cette parole de Jésus ? Prenez mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. On va lire les 8 premiers versets et vous allez dire au Seigneur qu'est-ce que vous avez fait de ces 8 versets. D'accord ? Est-ce que vous avez déjà lu le psaume 37 ? Combien de fois vous l'avez lu ? Plusieurs fois ? Bon. Donc, ce sont des instructions qui viennent de Dieu. Psaume 37, versets 1 à 8. Ne t'irrite pas contre les méchants. Bon, est-ce qu'il y a des gens méchants ? Est-ce qu'il y a des gens méchants ? Est-ce qu'il peut y avoir des chrétiens méchants ? Ben oui, les chrétiens sont méchants. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils voient l'Église, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils sont méchants. Et c'est vrai que ça peut irriter. Est-ce qu'il y a des situations qui peuvent nous irriter ? Ben oui. Il n'est pas dit, ce n'est pas normal que vous vous irritiez. Vous voyez, c'est pas la même chose. Mais le diable, il est fort pour nous faire transformer les choses. Il est dit, ne t'irrite pas. C'est une instruction. Non, mais je ne mériterai pas. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Même Asaph s'est fait piéger par ça. Asaph, il était en colère. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait été choisi par Dieu. Vous lirez dans le psaume 76. Il avait été choisi par Dieu, par David, pour diriger la chorale. Et il a commencé à porter envie aux insensés. Il voyait les gens de l'extérieur, les inconvertis, qui réussissaient plus que les chrétiens. Et il a commencé à... Vous connaissez le psaume 76 ? Il a commencé à se fâcher. Et comment ça ? C'est les chrétiens qui devraient réussir, les pécheurs, ils ne devraient pas réussir. Alors, est-ce qu'un pécheur peut réussir dans la vie ? Mais bien sûr. Mais tant mieux. On ne va pas s'irriter parce que des pécheurs réussissent dans la vie. Vous comprenez ? Je veux dire, après tout, c'est peut-être pas plus mal. C'est pas grave. Parce que le verdict, il est là. Ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Il y a des chrétiens qui ont rétrogradé à cause de cette affaire, par la jalousie. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Est-ce que je suis fidèle ? Est-ce que je me confie en Dieu ? Fais de l'Éternel tes délices. Là, on est au-delà d'aller à l'église, là, je vous le dis. Fais de l'Éternel tes délices, alors là, ça va loin. Là, ça va très loin. Parce que la bénédiction, elle est costaud, elle est pointue. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, là, on n'est même plus dans les besoins. On est dans les désirs. On peut dire merci, Seigneur. Dieu ne s'occupe pas que de nos besoins. Dieu peut aussi répondre à nos désirs. Merci Seigneur. Il n'y a personne qui dit amen. Bon, mais tant pis si vous n'en voulez pas. Mais moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que Dieu nous accorde certains désirs. Non ? Vous me regardez. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on lit. Il y a des versets dans la Bible qui nous indiquent que Dieu ne s'occupe pas que de nos besoins, il s'occupe de nos désirs. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a besoin par exemple de droiture, de fermeté, etc. Mais aussi on a besoin de tendresse, d'affection. Et Dieu connaît nos désirs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu réponde à certains de vos désirs. Eh bien, moi, oui. Eh bien, je vous avoue que ça fait du bien. À des moments que Dieu réponde à nos désirs. Oui ou non? C'est écrit. Regardez la page. Hein, on va voir d'autres textes. Dans le psaume 145. Vous savez, Dieu, il sait. C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait comment on fonctionne. Il connaît notre âme, notre esprit, notre conscience, etc. Il sait. Il sait nos attentes, il connaît nos peines, nos afflictions, il sait comment consoler quelqu'un. Mais on voit, parce qu'une fois, je me rappelle une sœur, j'avais parlé dans la Bible que Dieu s'occupait aussi de nos désirs, mais je n'avais pas donné les versets. Et à la fin, elle me dit, mais non, monsieur Hugo, elle me dit, Dieu ne s'occupe que de nos besoins, vous croyez que Dieu va pouvoir à nos désirs? Et bien, je dis, mais oui. Et vous voyez, elle n'avait pas lu. Bon, elle était catégorique. Non, moi je crois que, regardez, psaume 145, vous savez, c'est important ces choses. Parce que quand Dieu parle que son joug est doux et son fardeau léger, il faut comprendre les choses. Psaume 145, verset 19. Verset 18. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Vous voyez cette notion d'être sincère, d'être vrai. Sincère, ça vient d'un mot qui signifie sans masque, sans cire. Vous savez les artistes qui ont des masques en cire. Et sincère, ça veut dire sans cire. Sans masque d'être vrai devant Dieu. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, vous voyez, sans cire, sans masque. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Moi, je vous assure que ça me fait du bien de lire ça. Il accomplit les désirs. Je ne sais pas quels sont vos désirs. Mais moi, je pourrais vous citer, je ne vais pas le faire parce que c'est peut-être pas utile. Dieu a répondu à certains de mes désirs. Oui, parce qu'il est un père. Et ça revient souvent, vous voyez, dans le psaume, je crois que c'est dans le psaume 20 aussi. C'est bien de lire ces textes parce que je crois qu'on en a besoin. Et peut-être que quelqu'un ce soir a besoin. Vous voyez, David, il le dit aussi. Vous voyez, regardez, psaume 20, verset 1er, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours. Donc il y a cette notion de prière, vous voyez. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause, c'est-à-dire c'est dans des cantiques, il y avait un temps musical. Vous savez, comme dans les chansons du monde, où il y a des fois des paroles, et puis pendant une minute, il y a un moment de saxophone, etc. Mais là, c'est pareil, il y a un moment de musique, pause. Pour réfléchir, ce n'est pas des pauses pour faire danser les gens, c'est des pauses pour réfléchir à ce qui va être dit. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Vous voyez? Vous pouvez dire Amen. Parce que vous savez, quand on lit ces choses, recevez mes instructions, prenez mon joug. Mes frères et sœurs, si vous êtes fidèles dans vos offrandes, dans vos holocaustes, dans votre façon de le servir, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu vous donne selon ce que votre cœur désire. Et ce n'est pas qu'une fois, voyez, chapitre 21. Verset 2, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. C'était pourtant, il était roi là à l'époque, quand il a composé ce psaume. Il n'était pas berger là, il était roi. Ah bon, Dieu peut satisfaire les désirs d'un roi? Eh bien oui, que vous soyez, quelle que soit votre position, votre travail, Dieu peut vous donner ce que votre cœur désire. Vous comprenez, mes frères et sœurs, l'importance, on revient au psaume 34, d'être sérieux. Quand Dieu demande quelque chose, ben je vais le faire. Le psaume 37, ne t'irrite pas, n'envie pas les pécheurs, confie-toi en l'Éternel. Voyez, demeure dans la fidélité, fais de l'Éternel tes délices. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, c'est le même verset qu'un Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, c'est dit différemment, mais c'est la même chose, mets en lui ta confiance, et combien de fois des gens me disent, mais je prie, ça ne sert à rien de prier, moi j'en ai marre, je prie pour rien, ah ben c'est sûr que si vous priez sans obéir, il n'est pas dit de prier d'ailleurs, il est dit de mettre lui sa confiance. Et si vous prenez les versets, si vous les recensez, tous les versets où il est dit « Confie-toi en lui, heureux celui qui se confie en lui, tous ceux qui se confient en lui sont comblés, etc. Béni soit l'homme qui se confie en lui. » Il n'est jamais dit dans la Bible qu'il est béni l'homme qui prie. Toujours il est dit qu'il est béni l'homme qui se confie en Dieu. Et je me souviens quand j'étais en Polynésie où j'étais découragé par rapport à deux ou trois sujets qui me fatiguaient, j'en pouvais plus. Et je priais, je jeûnais des fois des semaines entières. Et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, je vous dis ça parce que, et en travaillant, je me levais à 4h30, je vous dis, c'était une épreuve. Et un jour, je me rappelle, je vous l'avais déjà raconté, j'étais à genoux dans mon bureau, Seigneur, tu dis que ceux qui prient renouvellent leur force. Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en peux plus. Et la voix du Saint-Esprit, il n'est pas dit ceux qui prient renouvellent leur force. Il est dit ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Et je vous assure que ça a été une leçon. C'est vrai que ce n'est pas dit ceux qui prient. Parce qu'on peut prier sans se confier. On peut se confier dans sa prière, se confier dans ses jeûnes et prières, se confier dans les heures qu'on met en prière, etc. Non, ce n'est pas une question de se confier dans ses efforts, c'est de faire des efforts pour faire confiance à Dieu. Et il est dit, c'est où ça qu'il est dit? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est bien, ils sont bien ces stagiaires. Ils doivent être bien formés, en tout cas, c'est clair. Ésaïe 40, mes frères et sœurs, c'est sérieux, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Moi, je vous assure, ça a été un tournant dans mon ministère à Tahiti. Parce que je croyais, voilà, moi je priais et j'étais pas en colère contre Dieu. Jamais je me suis autorisé à parler contre Dieu. Mais j'étais pas content parce que je priais, mais je connaissais pas suffisamment la Bible, comme aujourd'hui, pour comprendre certaines choses. Je dis, mais c'est pas normal que je sois fatigué, je ne sois pas renouvelé alors que j'arrête pas de prier. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, tu dis que ceux qui prient se renouvellent leur force, mais ça ne marche pas. Ésaïe 40, et le Seigneur m'a dit non. Voyez, verset 29. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est ça. Ésaïe 40, verset 28. Et le problème, il est là. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Parce qu'il faut l'apprendre. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui prient, comment vous avez dans votre version? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, alléluia, ils prennent leur vol comme les aigles. Et les aigles, ils ont la capacité de s'élever au-dessus des vents et de planer. Vous avez déjà vu des reportages sur les aigles? Vous ne les voyez pas s'affoler? Qu'est-ce qu'ils font en principe? C'est les vents, ils utilisent les vents pour... Ils battent jamais des ailes presque, vous avez remarqué? Et ça change des moineaux. Au niveau des efforts, eux, ils utilisent le vent, ils utilisent les courants pour monter, pour descendre, et ils voient. Et si Dieu nous compare à des aigles, c'est que quand on se confie à Dieu, on a le pouvoir de s'élever. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. Vous arrivez à vous élever, vous arrivez à rentrer dans ce repos. Parce que ce repos, quand même, il ne faut pas que ce soit des cantiques. Il faut que ce soit vraiment une expérience. Et moi, je vous assure, j'étais à genoux, je me rappelle, dans mon bureau là-bas en papeterie, mais ça a été comme une délivrance. Et j'ai dit, Seigneur, je me confierai en toi. C'est terminé. Et je me rappelle, je me suis levé, et en plus, quand je me suis levé, parce que j'avais des problèmes avec des serviteurs de Dieu, des gros problèmes. Ce n'était pas des petites broutilles. Et j'étais à genoux, et vraiment, le Saint-Esprit m'a dit, non, ce sont ceux qui se confient en l'Éternel qui prennent leur vol. Et quand je me lève, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, ne lutte plus contre la chair et le sang. C'est un commandement, ça aussi. Parce que tout le temps, vous savez, c'est dur, parce qu'on se fait piéger parfois. Vous vous êtes déjà fait piéger par un conflit de personnes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire piéger? C'était en 97, et c'était en 93 que l'épreuve avait commencé. Et laissez-moi vous dire que c'était vraiment chaud, comme on dit. Et là, ça a été comme si une prison explosait. Ne lutte pas contre la chair et le sang, parce que je connais la Bible quand même, heureusement. Et le Saint-Esprit peut me rappeler des milliers de versets, parce que je les ai appris. C'est quand même écrit, le Saint-Esprit, voyez Jean 16. Regardez, on peut le lire ce texte. C'est pour ça qu'il faut lire. C'est pour ça que je vous demande de lire et d'apprendre par cœur. Parce que le Saint-Esprit ne peut nous rappeler des choses que l'on a apprises. Voyez, Jean 16. C'est pour ça, moi, que j'ai appris des versets par cœur, continuellement. 14. Jean 14. Mais voyez, c'est important. Jean 14, verset 26. Parce que la communion avec Dieu, c'est cette liberté d'écoute aussi, voyez, cette écoute, voyez. La prière, ce n'est pas que parler. Quand il est dit prier, ça ne veut pas dire parler. Parler toujours, voyez. Il n'est pas dit, quand quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Ça ne veut pas dire qu'il parle, parce que dans la souffrance, c'est peut-être aussi intelligent d'écouter. La prière, c'est aussi écouter. Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, qu'est-ce qu'il va faire ? Deux choses. Il vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut nous rappeler des versets que si on les a enseignés. On nous les a enseignés. Et je vous assure, ce jour-là, moi, ça a été une délivrance. Et c'était quelques mois avant que, justement, que je vienne à Toulouse, parce que je pense qu'il me fallait être guéri, délivré. J'ai compris vraiment. En plus, je prêchais souvent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Et il n'y avait pas du tout d'ambiguïté, je ne me sentais pas du tout hypocrite, mais j'étais malheureux parce que je ne le vivais pas. Vous savez, c'est dur quand on prêche quelque chose qu'on ne le vit pas. Non pas parce qu'on n'a pas envie de le vivre, mais parce qu'on est piégé. Et j'étais piégé, et je savais que c'était vrai. Et quand j'ai compris, c'est là que j'ai compris qu'il y avait deux repos. Quand il est dit « je vous donnerai du repos », quand on se convertit, quand on se repent de ses péchés, on obtient le repos, ce que moi j'appelle ça le repos de l'âme. On est libéré du péché, le sang de Jésus nous purifie, on est sauvé. D'accord ? Ça s'appelle la repentance. Mais après, faites des disciples. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est bien d'accepter le sang de Jésus-Christ, c'est bien de devenir un chrétien, mais il faut apprendre à se comporter comme un chrétien. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, le repos de l'âme, et il ajoute, prenez mes instructions et vous trouverez le repos. Donc il y a un repos que l'on trouve, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Les verbes sont très importants dans la Bible. Quand bon, donner, c'est facile. Mais trouver, ça indique. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, moi, je veux pas être qu'un chrétien ou un prédicateur. Moi, ça ne m'intéressait pas d'être un prédicateur. Ce que je voulais, c'est être un vrai chrétien, un vrai disciple. Même en étant pasteur, c'est parce que je veux dire, vous comprenez bien qu'on peut être pasteur. Ce qui est important, c'est de devenir disciple. Et j'ai compris vraiment qu'il fallait être sérieux quand Jésus dit, recevez mes instructions. Mes frères et sœurs, si Dieu dit que si vous vous confiez en lui, vous renouvelez vos forces, laissez-moi vous dire que ça marchera. Vous entendez ? Vous croyez que Dieu s'amuserait à nous blaguer ou à nous mentir ? Quand Jésus dit « les cheveux de votre tête sont tous comptés », est-ce que c'est une blague ? Est-ce que Jésus a blagué ? Non. Quand Jésus dit « les cheveux de votre tête sont tous comptés », ça veut dire que Dieu connaît tous les détails de notre vie. Moi, ça me rassure, ça. Tous les détails. Et quand il dit « déchargez-vous sur lui car il prend soin de vous, il prendra soin de vous. Mais si vous vous en occupez, il ne s'en occupera pas. » C'est pour ça qu'il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mes frères et sœurs, mais il ne faut pas s'en occuper nous. Vous croyez que Dieu est assez puissant pour s'occuper de vos problèmes ? Eh bien, ne vous en occupez pas. Psaume 37, on y revient. On n'a pas fini. Mais vous savez, si on prend une centaine, même pas une centaine, c'est pas la peine. Une trentaine d'instructions, en plus, ça suffit. En plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la bénédiction. Il n'y a pas besoin de les connaître toutes. Jésus n'a pas dit, quand vous connaîtrez la moitié du Nouveau Testament, vous serez dans le repos. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte si Jésus avait dit des trucs pareils ? Ou s'il avait dit, eh bien, là où il y a 80% de l'Église qui est rassemblée, je suis au milieu de vous. On n'aurait pas l'air embarrassé. Qu'est-ce qu'il dit ? Là où deux ou trois sont assemblés. Moi, je trouve que c'est bien. Vous ne trouvez pas que c'est bien ? Non, mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si on réalise la bonté du Seigneur. Est-ce qu'il aurait pu dire, là où 80% des chrétiens de la ville sont rassemblés, je serai là ? Est-ce qu'il aurait pu le dire ? Mais bien sûr ! Ou la moitié ! Allez, non, là où deux ou trois Quelle grâce, mes frères et sœurs. Ah ouais, je ne sais pas si on réalise la bonté du Seigneur. C'est pour ça qu'il vaut mieux être très sérieux avec la parole. On revient à notre verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, pas tes prières, ta confiance. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Vous entendez? C'est pas que c'est la prière, c'est la contemplation. Je reste là, Seigneur, je suis en toi. J'ai confiance. Ne t'irrite pas. Oui, deux fois, trois fois. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ce sont, vous rappelez, recevez mes instructions. Il y a des chrétiens, ils sont toujours en colère. Ils sont toujours irrités. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu me laisse si. Mais Dieu n'agira pas. Écoutez-moi, Dieu n'agira pas. Ça prouve que vous voulez essayer par vos forces de régler des problèmes. Laisse la colère. Abandonne la fureur et encore une fois, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et vous savez, au psaume 39, vous savez, une fois, j'étais à Tahiti, il y avait un frère, un gars qui se convertissait, qui avait une grosse entreprise et il y a eu un gros problème. Mais il a eu un méga problème. Ça touchait le gouvernement. C'était une magouille. Et il s'est rendu compte que ça touchait le gouvernement. Et lui venait de se convertir, c'était un Français. Et il m'appelle, et il me dit, qu'est-ce que je fais? C'est archi grave, je peux même y laisser la vie. Et moi le matin, j'étais dans cette phase là où ça allait mieux, je lisais le psaume 39 ce matin-là. Vous voyez au verset 3. Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui souffre. Mais, regardez, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Donc, il y avait de la méditation. On peut souffrir et en même temps méditer la parole. Vous voyez, ça tient debout. Il y a des gens, ah non, 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 moi, je souffre, je lis plus. Mais quand vous voyez David, vous comprenez pourquoi David il a été béni. Quand il est dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis dans le désert, oh Dieu, je te cherche. Il y a des gens dans le désert, moi, je lis plus, j'en ai marre, je lis plus. Eh bien, est-ce qu'il a eu raison de chercher Dieu dans le désert? Et au verset 10, et je lui ai cité ce verset. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Et je lui ai dit, écoute-moi, ce matin j'ai lu le psaume 39, et je te conseille de ne rien dire, de rien faire. Et il le lit, il était au téléphone, bon, d'accord, et je peux vous dire que Dieu l'a béni. C'était impossible. Il y a des choses qui sont impossibles. Mais comme rien n'est impossible à Dieu, est-ce que Dieu peut changer le mal en bien? Voyez, mes frères et sœurs, les instructions, il faut le faire. Et j'ai dit, mais tu n'en parles à personne, tu pries. Il me dit, bon, je vais prier avec quelques employés qui sont chrétiens, voilà, c'est tout. Tu pries avec des employés. Et je vous assure, il m'a appelé, quelques mois après, Dieu avait, mais vraiment, c'était un miracle, je vous assure. C'était un miracle. Est-ce que vous le croyez, que quand on reste muet, qu'on se tait, Dieu peut agir. Est-ce que c'est la peine d'informer tout le monde, tous les copains, toutes les copines? Voilà, prie pour. Bon, des fois, on a besoin. Est-ce que c'est biblique de prier les uns pour les autres? Oui, mais il y a des fois, et c'est là que vous voyez la grâce de Dieu. Vous n'en avez parlé à personne, et Dieu a agi. Et vous voyez bien que c'est lui qui l'a fait. Recevez mes instructions. Recevez mes instructions. C'est pas de les lire et de les connaître par cœur. Des fois, on me dit, mais monsieur Gau, combien de versets vous connaissez par cœur? Mais ça n'a aucune importance, ça. Ça m'aide à répondre vite fait, ça c'est sûr. Mais c'est pas important, ça. Il n'est pas dit qu'il vous sera fait selon votre mémoire. Tant mieux, la mémoire. Il vous sera fait selon votre foi. La mémoire, c'est bien. Mais même si vous lisez un texte le matin, quand il dit, mais qu'est-ce que j'ai lu ce matin, je ne me rappelle pas. C'est pas grave. Vous l'avez lu. Votre esprit l'a lu. Votre esprit l'a emmagasiné. Quand Dieu dit, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, laissez-moi vous dire que ça vaut la peine de le faire. Mes frères et sœurs, hier j'étais avec une chrétienne, 20 ans de conversion. Elle m'appelle il y a 15 jours, elle me dit, monsieur Gau, priez pour moi, j'ai besoin d'un travail. Ça fait des mois que je suis au chômage, j'ai besoin d'un travail. Eh bien, on va prier, Dieu va pourvoir. J'ai dit, mais acceptez le travail que Dieu va vous donner. Elle me dit, d'accord, je vous promets d'accepter. Hier matin, elle m'appelle, elle me dit, monsieur Gau, j'ai trouvé du travail, c'est formidable. Mais voilà, il y a des difficultés. J'ai dit, mais partout, il y a du travail. Oui, les gens avec qui je travaille, ils ne sont pas chrétiens. Mais j'ai dit, mais n'importe où vous allez aller, vous croyez qu'il y a des chrétiens? Il n'y a que des gens perdus partout. Et je dis, mais vous n'avez pas lu ce verset dans les Romains, au chapitre 12, au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 20 ans de conversion. Ah non, vous êtes sûr? Mais on va voir, on va lire ensemble. Mais lisons-le, mes frères. Le problème, c'est que les gens, des fois, ils me demandent si je suis sûr de ce que je dis. Vous voyez? C'est comme un docteur qui donnerait un médicament. Vous êtes sûr que ce médicament existe? Non, mais franchement, ça fait mal au cœur. Romains 12, verset 21. Ce sont des instructions, mes frères et sœurs. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas pour nous tester, c'est pour nous délivrer. Romains, chapitre 12, verset 21. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette instruction, mais moi je trouve que c'est bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est quoi le bien? Eh bien, toi, je veux bénir mes patrons. Je veux bénir les gens avec qui je travaille. Je veux bénir ma nation. Et oui, c'est écrit. C'est écrit de bénir. Je ne me laisserai pas vaincre. Alors, recevez mes instructions. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, il est dit, prenez mon joug. Quand il dit, prenez toutes les armes. Quand le dimanche, il est dit, prenez et mangez. C'est même parlant du pain. Quand il est dit, prenez et buvez. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas lié qu'au fait de boire un peu de vin ou de prendre un peu de pain. C'est une question de prendre une victoire. Je prends la délivrance, je prends la bénédiction. Tiens, ce soir, on va prier pour moi. Eh bien, je m'attends à la grâce de Dieu. Alors, on pourrait relire la Bible, peut-être. Peut-être que c'est ce que j'ai fait à Haïti. Quand il y a eu cette affaire-là, que je me suis rendu compte que je connaissais mal, que j'interprétais mal les versets, je me suis dit, tu vas relire Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc., et tu vas regarder les instructions. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais une Bible que j'utilisais à cette époque, et j'ai surligné les instructions. Et au bout de la 20e, je me suis rendu compte que moi, pasteur depuis 15 ans, oui, 15 facile, je me mélangeais les pinceaux, parce qu'on a vite fait, des fois on ne sait pas, est-ce que c'est une prophétie, est-ce que c'est un avertissement, est-ce que c'est une promesse, est-ce que c'est... Vous voyez ? Et je me suis dit, non, tu vas le faire comme il faut. Et je vous assure, en quelques jours, je suis vraiment rentré dans le repos. Gloire à Dieu. Parce que Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Quand il dit, vous aurez des tribulations, mais, qu'est-ce qu'il ajoute? Voilà. Et c'est où? Jean 16 combien? C'est bien. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais vous allez trouver du courage où? En regardant les infos? Vous allez trouver courage dans votre petite tête? Dans votre personnalité? Dans votre optimisme sophistiqué? Mes frères et sœurs, tant mieux si vous êtes optimiste. Le courage, c'est Dieu qui vous le donnera. Vous croyez que Dieu est capable de vous donner du courage? S'il dit prenez courage, moi vous savez, ça m'est arrivé souvent, hein, le dimanche matin, parce que vous savez, le dimanche pour un pasteur, c'est pas toujours évident. Et le matin, quand je me mets à genoux, je dis Seigneur, je prends courage. Tu remplis mon cœur de courage. Et Dieu me donne du courage. Je le crois par la foi, je ressens rien du tout, mais je crois que quand on demande à Dieu, il nous donne. Vous le croyez? Alors mes frères et sœurs, recommencez les évangiles s'il le faut. Recommencer à dire, ben, je vais lire Matthieu. Quand je vois une instruction, hop, je la surligne. Et tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Eh bien, moi, je veux bénir. Je veux bénir l'église où Dieu m'a placé. Je veux bénir ma famille. Je veux bénir mes ennemis. Eh bien, vous allez voir. C'est des lois. On connaît les lois physiques. Tu me l'amènes à le feu. Tiens, mettez la main dans le feu de cheminée. Mettez-la 5 minutes. Mais bien jusqu'au coude. Et vous attendez 5 minutes. Et vous la ressortez. Vous allez voir qu'il risque de manquer quelques poils. Oui ou non? Vous n'allez pas dire, mais c'est extraordinaire. Ah, il n'y a que les os. Ah. Vous seriez étonné ou non? Est-ce que vous seriez étonné? Mais non, vous ne seriez pas étonné. Parce que c'est des lois. Mettez-la dans l'eau, je vous promets qu'elle sera mouillée. Ça vous fait rire. Hein? Ça vous fait rire, je le fais exprès. Mais mes frères et sœurs, c'est pareil les lois de Dieu. Ce sont des lois. Si vous surmontez le mal par le bien, eh bien, vous serez dans le bien. Recevez mes instructions. Quand Dieu dit, prenez la vérité pour ceinture, le bouclier de la foi, toute la journée, vous pouvez répondre avec un verset biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on peut chanter « Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur ». On va fermer les yeux. On va fermer les yeux, mes frères et sœurs, juste quelques instants. Vous savez, Dieu est un Dieu de victoire. Vous le croyez que Dieu est un Dieu de grâce? Quand Jésus s'adressait à cette foule, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des gens bien, il y avait des gens pas bien. Il y avait des gens... Je suis sûr qu'il y avait même des gens qui étaient venus pour se moquer de lui. C'est pas écrit, mais comme je connais la Bible, j'en déduis que dans toute cette foule, il y avait des gens qui n'allaient pas bien du tout. Et pourtant, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous. » Ce soir, je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin, compris pour lui. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, « Moi, j'ai besoin, compris pour moi. » Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'avancer? Monsieur de Dieu, les frères, allez prier, s'il vous plaît. On reste recueillis. C'est ça, bénir. On veut bénir. L'église, dans une église, on se bénit. S'il y a quelqu'un qui a besoin, venez, venez. Dieu est là pour bénir, croyez-moi, il veut donner du repos. Il veut que vous réappreniez à trouver des instructions. Découvrez, redécouvrez ces choses. Il est tout puissant, le Seigneur. Ne vous sentez pas brimé, au contraire. Dites, mais moi je veux réapprendre à recevoir toutes ces instructions. Et le Seigneur vous aidera. Si vous êtes sérieux, croyez-moi, Dieu vous aidera et vous trouverez le repos. Vous obtiendrez ces choses. Si Dieu vous propose de vous les donner, croyez-moi, il va vous les donner. Et vous qui restez assis, eh bien, intercédez de tout votre cœur pour ces bien-aimés. Et le Seigneur vous bénira à votre tour.